Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Dans cette 25e émission, nous allons nous intéresser à l'émergence d'une nouvelle filière économique dans notre département qui intègre dans sa chaîne de valeur agriculture et artisanat locaux, mais aussi éco-construction, alimentation animale, papeterie, plasturgie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la culture, la transformation et à l'utilisation du chanvre en Loir-et-Cher, notamment pour les agriculteurs qui le cultivent et le commercialisent et pour les artisans du bâtiment qu'il utilise. Dans le Loir-et-Cher, la culture du chanvre à grande échelle a été réintroduite avec la création, en 2011, de l'entreprise commerciale Les Chanvriers Blaisois. Elle est composée de 6 agriculteurs installés du Perchevent d'Aumois au nord, aux confins de la Sologne viticole au sud, en passant par l'agglomération blaisoise et la Petite Beauce. C'est dans cette vaste plaine ouverte entre vallée de la Loire et forêt de Marchenoir que se trouve la ferme des Quatre Vents de David Péchard sur la commune de Saint-Martin-en-Plaine.
C'était pour les 6 collègues une motivation de trouver une culture nouvelle sur leur exploitation pour allonger leur rotation avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en grande culture céréalière conventionnelle avec des rotations très courtes. La plupart des collègues font du colza, du blé, de l'orge, des rotations qui sont sur 3 ans. Et ça entraîne de grosses difficultés de gestion de mauvaises herbes, de maladies et autres. Donc l'intérêt d'intégrer une nouvelle culture comme le chanvre leur a permis d'allonger ces rotations et de pouvoir, améliorer leur pratique tout en limitant, et ça c'est un point extrêmement fort pour le chanvre, en limitant leur impact environnemental. Le chanvre nécessite quasiment aucun intrant, aucun apport extérieur de fongicides, insecticides, herbicides, éventuellement un petit peu d'engrais, mais ça se limite à ça, alors que la plupart des autres cultures conventionnelles, le blé, l'orge ou le colza, nécessitent beaucoup de passages de pulvérisateurs et beaucoup de produits phytosanitaires. Une fois récolté, c'est une plante qui, économiquement, peut avoir plein de valorisations. On valorise la paille de chanvre pour le bâtiment, l'isolation, remplacer les laines de verre, les laines de roche. C'est une plante qui va être extrêmement intéressante également pour les litières, pour animaux, puisqu'elle est extrêmement absorbante en humidité, déjection animale et autres. Elle est extrêmement intéressante également pour les parterres de fleurs. Il est en paillis de chanvre, c'est très utilisé pour justement les jardiniers, paysagistes et autres. Et ça peut être aussi un gros intérêt pour tout ce qui est, on va dire, marché précurseur aujourd'hui, comme la plasturgie. On peut imaginer à l'avenir, court terme, avoir une demande forte d'intégrer les fibres de chanvre, comme les fibres de lin d'ailleurs, dans tout ce qui est matériaux plastiques pour remplacer les fibres synthétiques. Donc pour tout ce qui est recyclage, etc. Donc ça peut être un marché qui est aujourd'hui en cours de développement, mais qui économiquement peut avoir des débouchés extrêmement intéressants. Donc ça, c'est la partie valorisation de la paille. La graine peut avoir différentes valorisations également en alimentation humaine. C'est une graine qui est extrêmement riche et intéressante au niveau nutritionnel et gustatif. Et au niveau animal, c'est une graine qui est très utilisée en noisellerie, très intéressante également en pêche. Beaucoup de pêcheurs l'utilisent comme appât. Voilà, il y a plein de débouchés possibles avec cette plante. Le gros souci avec le chanvre, c'est que c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a des années où on pourrait en faire 3 fois plus. On nous assurerait un débouché. Mais par exemple, sur 2018, on nous a tout de suite dit, on nous a mis le holà et on nous a dit n'en faites pas trop parce qu'on n'a pas de débouché. On n'a plus de débouché parce que l'année 2017, récolte précédente, a été extraordinaire. Donc ils ont beaucoup, beaucoup de volume. Et donc pour être sûr de pouvoir écouler ces volumes, ils ne veulent pas en faire trop en 2018. Ça évite d'avoir des prix après qui sont en dents de scie. Là, on a des prix stables tous les ans parce qu'on a des industriels qui maîtrisent la production et qui disent aux producteurs comme nous de ne pas forcément faire de trop parce que sinon, ça risque d'écrouler le marché. Le bâtiment, il y a une demande constante, donc une demande forte de tous les matériaux d'isolation, notamment le chanvre. Donc ça assure une demande progressive du chanvre dans le bâtiment.
Qui augmente tous les ans.
Ouais, tous les ans. Paillage, c'est pas un marché phénoménal, mais c'est un petit marché, mais qui est stable chaque année. Papeterie, il y avait un marché qui était très fort dans les années 2000, mais qui est en régression aujourd'hui. Et on en parlait tout à l'heure, la plasturgie, l'intégration de la fibre de chanvre dans les plastiques, qui, a priori, est en croissance progressive, pas forcément forte, mais progressive également. Mais il n'y a pas de marché exponentiel aujourd'hui. Après, il y a les industriels qui travaillent pour intégrer, les industriels du chanvre, pour intégrer le chanvre dans différents matériaux, pour justement faire exploser le marché. Mais aujourd'hui, il n'y a pas non plus un marché exponentiel, mais un marché qui croît d'année en année.
D'accord, oui, donc c'est avec les nouvelles réglementations ou les nouveaux effets de mode autour de cette plante ou autour du plastique que les marchés de la plasturgie, des cosmétiques qui sont très faibles aujourd'hui
peuvent. Mais enfin, on l'espère, en tout cas, nous on le voit pas non plus à notre petit niveau, hein, mais on sent qu'en local il y a une demande quand même un peu plus forte, notamment pour le bâtiment, hein, c'est ça qui est le plus, qui représente 90% du marché, du chanvre aujourd'hui, la fibre ou la chaîne vote. Mais il faut, encore une fois, il faut s'y tenir en termes commercial. C'est-à-dire que les gens ne vont pas venir à nous, c'est à nous d'aller vers les gens pour leur expliquer l'intérêt de ce matériau dans le bâtiment. On sait qu'il y a une demande dans le bâtiment, dans l'isolation, et le chanvre a sa place là-dedans. Maintenant, il faut qu'ils prennent des parts de marché dans l'isolation pour remplacer les isolants dits à base de pétrole, laine de verre, laine de roche, etc. Enfin, qui sont très énergivores. Il y a des producteurs en local, il y a des artisans en local, parce que nous, on n'est pas poseurs, hein, on est producteurs uniquement d'isolants. Après, c'est soit aux particuliers de poser eux-mêmes ce matériau, soit à faire appel à des artisans. Donc, on a une liste d'artisans à proposer en région centre, compétents pour utiliser ce type de matériau qui est spécifique, mais qui, justement, est très adapté notamment à l'ancien. C'est bien plus compliqué de convaincre un artisan qui est convaincu ou qui a toute sa vie utilisé des laines de verre, des laines de roche, lui dire d'utiliser des laines de chanvre, c'est un peu plus compliqué. Même si le consommateur ou le client final le demande, l'artisan, lui, sans avoir des œillères, il a un peu plus de difficultés à se lancer, la majorité, je parle, hein, à se lancer dans des nouveaux matériaux. Donc là, je vous avoue que c'est bien plus compliqué dans le bâtiment à convaincre des gens à utiliser des matériaux dits artisanaux et nouveaux. Allez, si on prend le marché du Loir-et-Cher en termes de construction, on va dire sur 100 maisons construites dans le Loir-et-Cher, au grand maximum, on en touche une. Mais après, ça, c'est une force commerciale qu'on n'a pas, qu'on peut ou qu'on a du mal à avoir, en tout cas. Après, il faudrait un temps plein, voire deux temps pleins, pour démarcher tous les vendeurs de matériaux, tous les artisans du Loir-et-Cher, parce que je ne sais pas le nombre d'artisans qu'il y a dans le Loir-et-Cher, mais on a peut-être que 3 artisans qui sont adaptés en Loir-et-Cher pour développer ou qui sont motivés pour développer la filière chanvre.
Vincent Boursier est maçon spécialisé dans l'éco-construction et la restauration du bâti ancien à Tenay, aux confins de la vallée du Cher, du plateau de Pont-le-Voix et de la Sologne viticole. Il a créé son entreprise au début de l'année après avoir débuté sa carrière au sein d'une entreprise de maçonnerie conventionnelle.
Alors là, je peux avoir des briques de chanvre, la chaîne vote que j'utilise pour brancher, faire des corrections thermiques sur le bâti ancien, des dallages, des chapes à l'étage, puis les enduits de finition. On a visité un peu toute notre façon de consommer, en gros, de s'alimenter, de vivre. Et la construction ou l'habitat, ça fait partie de l'humain, hein, pour se loger et vivre. Donc, si tu commences à repenser à tout ton mode de fonctionnement, de vie, ça en fait partie, quoi. Si tu veux être cohérent, faut tout revoir par rapport aux dernières années dans lesquelles on a vécu. Donc c'était pas une obligation, mais c'était logique pour moi de changer de façon de faire.
Et dans l'exercice quotidien de ton métier, concrètement, qu'est-ce qui change sur cette activité-là par rapport à un maçon conventionnel?
Le choix de mes matériaux, la façon d'étudier un chantier. Il faut vraiment se pencher sur tous les problèmes avant d'attaquer le chantier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire beaucoup de récupération de matériaux. On pense carrément autrement qu'avec du placo et du cache-misère, quoi. C'est ce que j'aime en tout cas de faire. Analyser vraiment bien le chantier pour être en adéquation totale avec le soleil, faire attention à tout ça, comment on va chauffer notre maison, récupérer des calories, quel matériau on peut mettre à quel endroit pour capter le soleil, la récupération des eaux. C'est vraiment tout qu'il faut voir en amont pour avoir une maison en adéquation avec les pensées qu'on a maintenant. Pour respecter notre planète, quoi. C'est aussi simple que ça. L'intérêt de la chaux, par exemple, sur le bâti ancien, c'est qu'on laisse respirer notre bâtiment, ce qui va empêcher les problèmes d'humidité et de pourriture du mur. De l'isolant aussi, parce que si on recouvre un mur et qu'on calcule pas bien le transfert de la migration de la vapeur d'eau, avec le temps, l'isolant va se détériorer. Donc tout ça, ça se calcule, ça. Et le chanvre ou la fibre de bois est bien cohérent avec le bâti ancien. Donc voilà pourquoi je me suis tourné vers ces matériaux-là. Pour respecter notre patrimoine, qu'on a bien détérioré depuis une bonne centaine d'années. On va dire 1870, même dans ces eaux-là. Et on a commencé à arrêter la construction naturelle, ou le vernaculaire, et à instaurer un peu de ciment dans toutes nos constructions. Ça s'est accéléré début 1900, où on a vraiment accéléré le processus. La construction en pierre a diminué, et là on a commencé à voir le problème. On paye les problèmes maintenant, ça met quand même quelques années, mais au niveau de la cohérence avec les matériaux naturels, tout ce qui est tuffeau ou pierre, on enfermait les façades par exemple avec un enduit ciment, ce qui a fait beaucoup de dégradation au niveau du bâti. C'était une question de temps et d'argent. Les maçons étaient contents parce qu'ils gagnaient du temps. En fait, ça sèche beaucoup plus vite. Et on a juste vu ce gain de temps-là. Et on n'a pas pensé au reste, aux conséquences. Il le savait pas en même temps. Il fallait avoir un peu de temps pour s'en rendre compte. Maintenant, on le sait, mais ça va pas assez vite. Pour ma part, je trouve que tout le monde le sait, mais même les marchands de matériaux, mais on continue à vendre aux gens des produits à base de ciment. Peut-être par manque d'informations et de manque de soucis aussi.
Il y a un marché aussi, un secteur économique entier qui est le secteur du bâtiment, qui est constitué avec ces acteurs qui ont plus ou moins de pouvoir, qui sont en position de rapport de force avec les uns avec les autres.
Ah oui, c'est ça, c'est pas dans l'intérêt d'arrêter de consommer ce genre de matériaux. Donc on n'est pas prêt d'y arriver. Mais...
Il y a des étapes à passer au niveau national pour justement la certification des différents produits. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de lobbying anti-matériaux dits naturels, qui mettent des bâtons dans les roues ou qui limitent justement la prolifération de ce type de matériaux. Donc je sais qu'il y a certains acteurs du chanvre qui ont essayé de certifier certains produits, ça a mis beaucoup de temps, ça a abouti aujourd'hui. Donc c'est des panneaux, c'est des enduits isolants, etc. Mais sur des matériaux artisanaux à notre petite échelle, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile. En local, si on a des artisans convaincus et des particuliers convaincus, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas sur sur de la rénovation du bâti ancien. Dans le neuf, c'est plus compliqué, mais il n'y a pas de raison non plus que ça ne se développe pas.
Après, le seul souci, c'est aussi le prix des matériaux, qui fait que ça augmente le prix du chantier. La mise en œuvre qui, pour l'instant, est tout en manuel. Donc, on passe beaucoup plus de temps que la maçonnerie traditionnelle. Donc, c'est pareil, c'est un coût supplémentaire. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes, il y a des formations qui se font pour les autoconstructeurs. C'est ce que j'aimerais aussi développer pour apprendre aux gens à s'en servir et que ça soit bien démocratisé et que tout le monde puisse se débrouiller comme il le sent. Ils ont une mise en œuvre assez relativement facile. Ça s'apprend vite. Il y a juste la finition qui est un peu technique où il faut savoir pour le faire. Mais sinon, tout le monde peut le faire. C'est ce que j'aime bien dans ces matériaux-là. C'est agréable en plus.
Oui, je résume, c'est les matériaux coûtent plus. Il y a plus de main-d'œuvre. Mais finalement, il y a potentiellement, pour celui qui est motivé, plus d'autonomie, parce que ses chantiers, ses réparations par la suite, il pourra les faire lui-même.
Oui, c'est ça.
Autonomie du client qui peut effectuer lui-même des travaux chronophages mais techniquement accessibles. Autonomie de l'artisan qui peut développer des activités de formation auprès des particuliers et se fournir auprès de petites structures locales plutôt que de mastodontes de la pétrochimie. Le marché comme lieu d'échange libre où chaque acteur cherche à maximiser son intérêt propre est une fiction. Chaque échange de biens ou de services suppose des relations sociales et politiques qui véhiculent leurs règles, leurs rapports de force et leur contenu idéologique. Sur un marché, les détenteurs de capitaux financiers, d'informations, de réseaux, mais aussi de capitaux symboliques comme la confiance, sont dans une position dominante par rapport aux acteurs moins bien dotés. Prétendre qu'un lieu ou une méthode d'échange spécifique est parfaitement libre, naturel ou scientifique, c'est en réalité vouloir masquer ces rapports de domination et ainsi les rendre plus pernicieux, voire violents. Les agriculteurs en savent quelque chose. La modernisation de l'agriculture des années 50 aux années 70 a inséré les exploitations dans une chaîne de valeur qui intègre semenciers, fabricants de machines, d'engrais et de produits phytosanitaires, coopératives de commercialisation, transformateurs de l'agroalimentaire et chaînes de grande distribution. L'agriculteur investit, s'endette, accroît sa surface, ses rendements, ses charges, mais pas son revenu. De leur côté, les autres acteurs du secteur s'enrichissent en vendant des machines, des produits d'engraissement et de traitement, et le produit même du travail de l'exploitant, qui lui, peine à se dégager un salaire décent. La puissance financière, les relations politiques des acteurs en amont et en aval du producteur leur confèrent une position dominante dans l'échange marchand.
Mais il y a aussi les exploitants qui sont en plein effort de modernisation, qui péniblement, besogneusement, essayent de remonter la pente abrupte du progrès. Exemple, celui-ci qui me déclara lorsque nous sommes entrés que ses parents qui avaient 8 enfants comme lui vivaient probablement mieux que lui. Il était très déprimé par les difficultés qu'il rencontrait dans son effort farouche vers le progrès.
Plus on en fait, quoi, plus il faut en faire, parce que il faut davantage de matériel, donc davantage de travail, davantage d'engrais.
Oui.
Et la provine ne manque pas, le lait ne manque pas, les bois n'ont pas augmenté, quoi, ça reste pareil.
Qu'est-ce qu'il dit le conseiller technique dans un cas comme
oui,
ça
C'est assez difficile, même si on se passe comme ça, mais... Je pense que quand même, depuis que M. Vanel est rentré dans cette exploitation, l'exploitation a repris de la valeur.
Et oui, mais l'argent ne rentre pas quand même.
Alors vous êtes pris à la gorge en permanence par des problèmes d'argent, quoi.
Ah oui.
Oui, en fait, moi je pense quand même qu'il faut plein de solutions.
Ah ben, on ne peut pas changer de métier à mon âge, quoi. Il faut foncer, quoi, mais... Excusez-moi.
Extrait d'Adieu paysan, documentaire d'Audrey Morion de 2014. On l'entend, le conseiller technique encourage l'agriculteur à poursuivre une modernisation qui ne lui convient manifestement pas. Pas d'alternative, on n'y peut rien, il faut s'adapter, suivre la route du progrès, comme le dit le reporter. Ce discours véhicule une idéologie, une volonté politique, celle de réduire les coûts des produits alimentaires pour accroître la consommation de produits manufacturés et de services. Celle, encore, de favoriser l'émergence de la grande distribution, des industries phytosanitaires et agroalimentaires notamment. Conséquence de cette organisation de la production, l'agriculteur perd toute autonomie décisionnelle sur la conduite de son exploitation. Les variétés qu'il plante sont choisies par d'autres en fonction de leur rendement et au détriment de leur qualité agronomique, ergonomique et écologique. Sensible aux maladies, aux mauvaises herbes, aux ravageurs, ces variétés hautement productives doivent être accompagnées de tout un cocktail de produits phytosanitaires, augmentant par là charge et pénibilité du travail agricole.
Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs, on ne sait pas comment. Augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant. C'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs.
Privé de la capacité de fixer le prix de ses produits, l'exploitant voit son revenu valser au rythme des cours internationaux et des aléas climatiques de plus en plus imprévisibles. Résultat, en France, un agriculteur sur quatre vit sous le seuil de pauvreté pour un temps de travail hebdomadaire qui atteint souvent les 70 heures. Sans les aides européennes, 60% des exploitations dégageraient un revenu annuel négatif. Un modèle agricole intenable pour ces travailleurs, sans même évoquer les dégâts sur la biodiversité, la qualité de l'eau, la fertilité des sols et la santé des consommateurs qu'ils provoquent. À la ferme des 4 vents, l'intégration du chanvre au système agricole est l'occasion de reprendre la main sur l'exploitation. La transformation, le conditionnement et la vente directe d'une partie de la production de chanvre, mais aussi de colza, de tournesol, de pois, de quinoa, de lin, permet d'accroître et de stabiliser le revenu tout en créant de l'activité. David Péchard.
2011, lancement de notre démarche avec les collègues pour la valorisation du chanvre dans le bâtiment, isolation, paillage, litière. Moi qui étais en agriculture bio, je me suis dit que la graine pouvait avoir un intérêt, chose qu'on ne valorisait pas jusque-là. Et j'ai eu beaucoup, des appels d'industriels du chanvre, alimentaires, qui faisaient des yaourts, qui faisaient de l'huile, qui faisaient de la graine décortiquée, etc. Et qui étaient intéressés pour récupérer ma graine. Et en échangeant avec ces gens-là, je me suis aperçu qu'en effet, cette graine avait un intérêt nutritionnel extrêmement fort pour l'humain, pour l'homme, et qu'il était peut-être intéressant pour moi de le valoriser directement et de garder une partie de ma production pour essayer de le valoriser en local. Et donc c'est là où j'ai lancé cette démarche de transformation sur l'exploitation en huile et en graines décortiquées pour le chanvre. Et ne voulant pas faire de la micro-niche, à savoir me focaliser que sur le chanvre, ce qui aurait été possible, je me suis dit, essayons d'avoir une gamme le plus large possible et d'aller voir un client en lui proposant du chanvre, en lui proposant du colza en huile, du tournesol, de la caméline, ce qu'on fait également, des légumineuses, ce qu'on fait sur l'exploitation, du quinoa, etc. C'est toujours plus valorisant économiquement pour moi, intéressant intellectuellement aussi de diversifier et d'avoir une gamme large, et puis pour le consommateur de trouver sur un même lieu, sur un même stand ou dans un même magasin, une gamme le plus large possible. Et puis agronomiquement, ça permet d'intégrer d'autres cultures que le chanvre dans mes rotations, et plutôt que d'avoir que 4 ou 5 cultures, d'en avoir aujourd'hui j'en ai 15. Et donc ça me permet d'allonger, et moi en bio, de mieux maîtriser mes rotations et mes problèmes d'ensalissement de mauvaises herbes, adventices et autres. J'étais seul sur l'exploitation céréalière il y a 12 ans quand je me suis installé, et depuis la mise en œuvre de cet atelier de transformation, la conversion au bio, parce qu'au début j'étais pas en bio au démarrage, conversion bio etc. Aujourd'hui on est 3,5 UTH, donc il y a 3 emplois temps plein sur l'exploitation, plus un mi-temps en plus sur l'exploitation qui associe donc la transformation, la commercialisation, l'exploitation dans les champs, etc. Donc cet ensemble de choses a permis de créer de l'emploi, améliorer évidemment l'impact environnemental de mon exploitation qui était au départ conventionnelle, qui est maintenant 80 à 70% bio, mais qui sera à 100% bio dans 2-3 ans. Et puis au niveau économique, on s'y retrouve. du par, parce qu'on fait de la vente directe, donc une meilleure valeur ajoutée et une meilleure indépendance ou autonomie par rapport aux marchés mondiaux, etc., aux aléas des marchés qu'il peut y avoir sur différentes productions qu'on fait, comme le blé, etc. Et puis, on s'y retrouve largement. Agronomiquement, chanvre et caméline, c'est des graines déjà qui sont plus compliquées à mettre en œuvre dans un champ par rapport à du colza ou du tournesol, qui demandent bien plus de travail dans le sens où la graine, la semence coûte plus cher. Le rendement graine à l'hectare est jusqu'à 2 à 3 fois moindre que du colza ou du tournesol. Et le rendement huile par kilo de graine est jusqu'à 2 à 3 fois moindre que ces huiles classiques. Donc si je fais mon ratio production, quantité d'huile produite à l'hectare, en chanvre et caméline, on est jusqu'à 5 à 6 fois moins que colza et tournesol. Donc le rendement est bien moins, donc ça explique cette différence de prix.
Et est-ce que le fait que ces plantes comme le chanvre, la caméline, ou on peut penser au blé avec les variétés anciennes, qui vont avoir un rendement moindre, mais qui vont faciliter le travail de l'agriculteur, c'est le signe un petit peu d'un changement de paradigme où le transformateur ou le négociant a finalement de moins en moins de pouvoir sur
Exactement.
La production du...
Alors ça, il y a en effet ce côté-là. Alors déjà, dans le fait de faire une diversification, on le disait tout à l'heure, c'est être le plus autonome, le moins dépendant justement de ces intermédiaires qui ont tendance, surtout en conventionnel, aujourd'hui c'est pas encore le cas en bio, donc on croise les doigts, on espère que ça va durer, mais en conventionnel c'est le cas, c'est-à-dire que l'agriculteur il est là que pour produire, et en gros on lui dit de se taire, il vend sa camelote à un intermédiaire, l'intermédiaire vend ça à un autre intermédiaire, un grossiste, etc., etc. Il y a 3 ou 4 intermédiaires avant que ça arrive dans notre assiette, et c'est rarement l'agriculteur qui a le pouvoir. Dans son choix de prix, dans son choix de variété, dans son choix de culture, etc., de production. En bio, notamment en vente directe, on a bien plus de marge de manœuvre dans le choix des produits, des espèces, dans le choix de production, dans le choix des tarifs auxquels on veut vendre notre production, dans le choix de notre transformation, etc. Donc on est plus libre et on est plus autonome et on est moins tributaire justement de ces industriels qui auraient tendance à vouloir s'accaparer ce marché et en faire un maximum de rendement, quoi. C'est-à-dire trouver des variétés qui soient le plus productives possible, peu importe la qualité hein, derrière, en disant à l'agriculteur, mets ça, comme ça tu seras sûr d'avoir un produit qui crache, entre guillemets, c'est ce qu'on dit en agriculture, qui donne un maximum de graines à l'hectare, et puis débrouille-toi avec ça, mais moi ça me satisfait, en tant que transformateur ou en tant que grossiste, et puis t'as, entre guillemets, plus ton mot à dire, c'est-à-dire que je te vends la graine, je te vends les produits, fais tout comme je te le dis, tu me vendras tout, je te promets que je t'achète ça à tel prix, et puis après, moi, je me débrouille. Mais là, on est plus libre de nos choix dans les semences,
de temps de travail,
etc. On devient intégré, disons, dans la démarche, et on est plus libre dans nos choix.
C'est la fin de cette 25e Feuille Vive avec un reportage sur les chanvriers blésois, une structure commerciale utilisée par 6 agriculteurs du Loir-et-Cher pour vendre directement le chanvre qu'ils cultivent à des particuliers et à des professionnels de l'éco-construction. À la ferme des 4 vents, l'arrivée de cette nouvelle plante a permis de développer tout un atelier de transformation et de vente directe de produits destinés à l'alimentation humaine. Un moyen d'augmenter la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation, de stabiliser le revenu de l'exploitant et de gagner en autonomie à l'égard des fournisseurs et des distributeurs. Pour le citoyen, faire fonctionner l'agriculture de son territoire est aussi un facteur d'autonomie à l'égard d'entreprises qui influencent l'organisation économique, l'opinion publique et l'action politique à l'échelle locale, nationale et au-delà. Elles donnent ainsi l'illusion que leur position dominante est naturelle, souhaitable, voire indispensable. Une position dominante, certes source de dynamisme pour certains secteurs économiques et géographiques, mais acquise au prix d'une rupture entre consommateurs et producteurs, d'une marginalisation de l'agriculture et de nombreux territoires ruraux. Retrouvez ce reportage en podcast accompagné de ses sources et de sa documentation dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Bon week-end et à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Tiens donc, Mélie, viens en voir, je croyais en main que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait...